Bonjour à tous, merci d'être venus. Ça sera notre dernière rencontre, dans le format d'une leçon, j'espère. La dernière fois, essayons de reprendre le fil. Si vous vous rappelez, je vous ai présenté un essai de modéliser une voie de signalisation importante qui s'appelle WINT, W-N-T. Avec l'approche basée sur la règle, la réécriture des graphes, kappa. Et c'était un exemple d'un modèle grand, large, en contraste avec les modèles plus physical, plus de la mécanique statistique, plus petit. Alors, c'est un modèle grand. 1300 règles. Et même si les expérimentateurs ont compris de longtemps qu'il y a de la polymérisation, de l'oligomérisation et de la polymérisation des protéines d'échafaudage dans ce système, il n'y avait jamais un modèle qui prenait en considération ce fait. Et ce n'est pas très surprenant parce que modéliser la polymérisation, ça veut dire avoir en principe une infinité des espèces moléculaires qui sont accessibles. Si on voulait simuler ou si on voulait modéliser ça avec les systèmes plus traditionnels, on devrait faire une décision quelle est la longueur maximale du polymère qu'on veut considérer, par exemple. Et ça, c'est... En tout cas, ce serait très combinatoire. L'approche qui utilise les règles, c'est très, très adapté à ce problème. Et on a compris en faisant ce modèle et en le calibrant avec les résultats expérimentaux qui sont connus. Nous avons compris, et ça c'est tout. C'est un travail qui est en progrès. On le finira, je crois, quelques mois. On a compris que, en fait, cette polymérisation, c'est très importante pour la dynamique et le fonctionnement de cette voie, au moins de cette partie de cette voie. Et alors, on a fait un modèle plus traditionnel, plus maintenant qu'on a compris avec l'aide d'un modèle compliqué, on a compris une chose peut-être essentielle du fonctionnement. On peut maintenant essayer de faire un modèle plus abstrait, plus traditionnel, cherchant de comprendre les conséquences de la polymérisation. Et ça nous a porté à ce modèle de la statistique, peut-être, ouais, pas encore statistique, mais un modèle d'assemblage, d'équilibre des échafaudages qui, en essence, généralise l'idée de Michael Smentman dans une façon très intéressante, je crois. Je vous rappelle que Michael Smentman, vous avez un enzyme, vous avez deux entités, deux objets A et B qui interagissent directement par une liaison directe, un contact direct. Alors, A peut être un enzyme, B c'est un substrat qui est phosphorylé ou quelque chose comme ça. Et dans le cas de l'échafaudage, on a une troisième partie qui facilite l'encontre entre A et B. Mais facilite, c'est en citation, parce que si l'échafaudage augmente de concentration, alors il ne facilite plus l'encontre entre A et B, mais il fait l'opposite. Il isole les A et B parce que un A et un B vont se lier à des instances d'échafaudage différentes, et pas le même échafaudage, la même instance. Alors, ils sont isolés. C'est une caractéristique de tous les systèmes médiés par l'échafaudage. Eh bien, alors, dans le cas de la polymérisation, dans l'échafaudage qui polymérise, comme c'est le cas dans le système WINT, on a toute une un ensemble de des échafaudages de différentes longueurs. Et l'assumption ici est que on suppose que chaque A qui est lié qui est lié au même polymère qu'un B peut agir sur le B. Alors ici, dans ce cas ici, vous avez 3 A qui peuvent interagir en principe avec 3 AB. Et alors vous avez une croissance du potentiel catalytique de 9 fois vis-à-vis un contact direct. Alors, dans un ensemble de polymères, vous avez une mixture de différents potentiaux catalytiques. Et alors, le potentiel catalytique du système, d'un état du système, est simplement, la somme des potentiels catalytiques de chaque échafaudage, de chaque polymère. Bien. On a alors calculé, tout ça c'est analytique, il n'y a pas de simulation ici. On a calculé la surface de potentiel catalytique en fonction de la concentration totale de l'échafaudage et des affinités, c'est-à-dire l'affinité entre l'énergie de liaison entre les protomères. Et vous voyez ici que si vous concentrez sur en particulier les courbes rouges ici, si vous vous concentrez sur une particulière affinité, alors vous voyez ici l'effet de CD effet proson, c'est-à-dire l'effet d'isolation. Quand vous avez petite protomère, c'est-à-dire vous avez l'échafaudage, vous avez peu d'échafaudage, alors il y a une croissance du potentiel catalytique si nous augmentons le nombre de protomères et après il y a cette isolation. Ce n'est pas le cas dans la direction de l'affinité, parce que l'affinité... Oui, peut-être on va expliquer ça dans un moment. Parce que l'affinité n'augmente pas le nombre d'échafaudages possibles. Seulement, elle fait le polymère plus long. Ça, c'est une vue du système, du comportement du système, de beaucoup plus... c'est une échelle beaucoup plus grande, parce que notez, ici nous allons de. Le nombre de ça, c'est le nombre de sites. Et le nombre de sites, c'est le nombre de domaines de liaison pour un A et pour un B. On assume que. On suppose que chaque protomère a un domaine de liaison pour A et un domaine de liaison pour un site de liaison pour B. Alors, le nombre de sites, c'est pratiquement le nombre de protomères. Il ne faut pas dire le nombre de protomères, parce que c'est important ici de comprendre que nous sommes dans une description de concentration. Nous allons visiter un peu la situation quand on a vraiment des nombres discrets de A, de B et de S. Ici, nous avons des concentrations. Une concentration est un nombre réel. Et ça veut dire que si vous avez si vous décrivez une polymérisation dans un cadre qui utilise les concentrations, vous n'avez pas un polymère maximal, parce que les concentrations peuvent être infinitely small, peuvent être petits à l'infini. Il n'y a pas un maximum. Mais il y a un maximum, un CD maximaire, une longueur maximale d'un polymère dans un cadre de protomères, de nombre de protomères, dans un cadre discret. On arrive à ça dans un moment. Alors, c'est une concentration de sites. Et notez que nous traversons ici à 12 ordres de magnitude. Ici, nous sommes seulement à dans un ordre de magnitude, nous sommes à 10 à la puissance de moins 6. C'est Et ici, nous sommes, c'est-à-dire, nous, ce que vous voyez ici, c'est pratiquement juste lié autour du sommet. La courbe rouge est une courbe qui décrit le système, le potentiel catalytique pour un système de polymérisation avec une certaine affinité. Et ça, c'est une affinité plus grande. Le rouge et l'orange sont deux systèmes de polymérisation avec des différentes affinités. Mais les courbes bleues, ce sont des, c'est une comparaison, je crois, très utile d'un système dans lequel nous n'avons pas une polymérisation, mais nous avons des objets, des protéines d'échafaudage qui ont plusieurs points de liaison pour A et plusieurs points de liaison pour B. Et ici, je crois que j'ai choisi 10 et ici 5. Alors, ça, c'est une mixture de une certaine concentration d'échafaudage avec 5 liaisons pour A, 5 pour B, et ici 10 pour A et 10 pour B. Et je le compare au même numéro de sites, c'est-à-dire la concentration. Ici, c'est des sites, c'est 5 fois la concentration d'échafaudage. Alors, de cette fois, on peut comparer vraiment tous les systèmes. Si je dis 10 sites, 1000 sites, un millier de sites, ça veut, de concentration en milliers, c'est-à-dire que le système de polymérisation ou le système multivalent ont le même nombre de sites, même s'ils n'ont pas le même nombre d'objets, évidemment. Alors, ce que vous voyez ici est que le système de polymérisation, à un certain moment, a une certaine concentration des sites qui fait augmenter le potentiel catalytique beaucoup plus qu'un système multivalent. Et le déclin après le sommet où l'isolation entre A et B commence est beaucoup moins prononcé que dans le système multivalent. Eh bien, nous avons esquissé une... On peut calculer exactement une formule analytique générale pour des systèmes d'échafaudage qui, je crois, c'est très intéressant parce qu'il nous dit que le potentiel catalytique est le produit de deux facteurs, un facteur qui est le potentiel maximal qu'on peut avoir dans le système et le second facteur est simplement un facteur, la probabilité d'avoir un site dans le système occupé par A et un site occupé par B. Et ça, c'est toujours surprenant pour moi que c'est une formule si simple. Et ça, c'est intéressant aussi parce que les deux facteurs se réfèrent à des propriétés complètement différentes du système. Ça se réfère aux liaisons. C'est un équilibre de liaison entre A et les sites et B et les sites. Et ça, mais il ne contient pas aucune information sur comment les sites sont partitionnés parmi les objets. Et cet facteur ici contient toute l'information sur comment les sites sont partitionnés parmi les objets. Partitionnés, on dit ? Oui. Mais il ne contient aucune information sur l'équilibre de liaison. Alors, par exemple, dans le cas des polymères, cette Qmax est simplement, si vous avez, ça c'est la concentration d'un polymère de longueur n, et S est la concentration, je vous rappelle, d'un monomère libre en équilibre, et on peut résoudre on peut calculer exactement ce que c'est la concentration d'équilibre d'un protomère libre. Alors, ça, c'est la concentration d'un polymère de longueur n, et ça, c'est le Qmax, c'est le potentiel catalytique maximal d'un polymère de longueur n, parce que vous avez n carré interactions possibles, NA, NB, et vous sommez sur... Vous sommez sur toutes les longueurs, il y a une infinité de longueurs parce que nous sommes dans le domaine de concentration, et ça vous donne cette expression ici. Et nous connaissons le S analytiquement. Bien. Pourquoi est-ce que le système se comporte de cette manière ici? En particulier, qu'est-ce que c'est la nature? Il y a deux possibilités pour. C'est surprenant parce que dans un système de polymères, vous avez deux possibilités pour l'effet de proson, pour l'effet d'isolation. Si vous concentrez sur une classe de longueur, la classe 10, peut-être. Alors, vous regardez seulement les polymères de la concentration des polymères de longueur 10 dans le système. Alors, si vous augmentez le nombre de ces polymères, la concentration de ces polymères, vous avez un proson effet dans cette classe, comme dans tous les systèmes d'échafaudage. Mais vous avez aussi un effet parce que vous pouvez distribuer les ligands A et B parmi les classes de longueur. C'est un proson de diversité, d'hétérogénéité. Si vous augmentez le nombre de classes, alors vous pouvez isoler les ligands parmi les classes. Et c'est utile peut-être de considérer un peu les propriétés, de revoir un peu brièvement les propriétés de polymérisation. Alors, nous avons simplement ici, dans ce cas, un protomère S qui se polymérise avec une affinité S. Et nous avons deux paramètres. Nous avons la concentration des protomères et l'affinité. La distribution de longueur, ça, c'est la distribution de longueur comme fonction en fonction de la concentration de protomères. Alors, le bleu, c'est le nombre de protomères. La concentration totale de protomères plus bas, et le violet, c'est la concentration de protomères plus haut dans cette série. Ça, c'est évident. Si vous avez une particulière concentration, clairement, vous avez cette essentiellement, c'est la forme géométrique de la concentration d'équilibre, le sigma, la puissance n minus, moins 1, moins 1 et s à la puissance de n. Alors, c'est géométrique, ça. Mais notez que dans le cas dans notre cadre de concentration, n'importe quelle concentration de TS, de protomère nous avons, le monomère, c'est toujours la configuration la plus abondante. C'est très difficile de faire de longs polymères. La propriété importante ici est que si vous vous concentrez, je fais voir la concentration de chaque classe, longueur 10, longueur 5, ça c'est. Alors, vous vous concentrez sur la longueur 5, sur la classe 5, et on va suivre, on va augmenter le TS, le total de S. Alors, c'est la rouge ici. Et on voit que toutes les classes, si on augmente TS, vont au même niveau. Quand TS va vers l'infini. C'est le niveau et le réciproque de sigma, de l'affinité. Ça, c'est important. Alors, si vous augmentez le TS, cette courbe-là va vers un asymptote qui est A1, qui est le réciproque de S. Ici, ça, c'est la distribution de la masse, c'est-à-dire c'est la concentration d'un polymère de longueur n multipliée par le nombre de protomères dans le polymère, c'est-à-dire multiplié par n. C'est la fréquence de polymères dans une particulière classe. Alors, évidemment, si vous avez un certain nombre de protomères, ça, c'est la distribution des longueurs, et ça, c'est la concentration, la distribution de la masse. Alors, la plupart des protomères avec dans cette dans ce cas, sont de la classe de longueur 3 ou 4, je ne sais pas, 1, 2, 3, 4. Et si vous augmentez TS, cette maximum va lentement vers des valeurs plus grandes. Et ici, on peut faire le même raisonnement avec pour ce qui regarde sigma, c'est-à-dire l'affinité. Et si la chose importante ici à considérer, si vous tenez la concentration de protomères fixe, mais vous augmentez l'affinité, la distribution des classes de longueur devient plus et plus plate, et va vers zéro dans les limites d'une affinité infinie. Il va vers zéro, pourquoi ? Parce que si nous allons si peut-être vous vous rappelez que si sigma va vers l'infini, nous allons dans une transition des phases, dans un point critique où vous commencez à avoir des polymères de toutes les longueurs. Et dans un cas continu dans les cas de concentration, dans ce cadre, ça veut dire que toutes les polymères sont de concentration égale. Nous avons une infinité de polymères, alors les concentrations vont tous vers zéro. Bien. Alors, ici, je retourne à cette courbe d'avant, mais je me concentre au sommet. Ça, ce sont les échafaudages multivalents. Et ça, c'est la situation de polymérisation. Alors, la chose intéressante à voir, alors, ce qu'on pense maintenant est que concentrez-vous à une certaine... Vous avez ce système de polymérisation. Concentrez-vous à une classe de longueur, une classe 10. Je ne sais pas, peut-être 10. Et alors, on peut regarder cette classe 10 comme s'il était un système, seulement cette classe comme un système d'échafaudage multivalent, où chaque objet a 10 points de lésion pour A et 10 points de liaison pour B. Et alors, on prend ça pour exemple. Prenez 5, qui c'est plus. Vous avez la classe 5, de longueur 5, dans le système de polymérisation, et nous pensons de cette classe comme s'il était un système d'échafaudage pas polymérisant, mais de multivalent, où vous avez des objets avec 5 points de liaison pour A et 5 points de liaison pour B. Et clairement, cet système multivalent a un maximum où le déclin, l'isolation entre A et B commence, un maximum d'échafaudage, de nombre de sites. Mais ce que je vous fais voir ici, le point bleu, est le point maximal, est la concentration, la concentration de la classe 5 dans le système de polymérisation ne peut jamais être plus grande de le réciproque de sigma, ici. Toutes les classes de longueur ont leur maximum approche le réciproque de sigma. Alors ça, c'est une limite. Tous les points bleus sont le réciproque de sigma. Et alors, ça veut dire que dans un système de polymérisation, la concentration de chaque classe ne peut jamais, c'est pas dire de chaque classe, pour la majorité de classes, au moins jusqu'à 10 dans cet exemple, la concentration maximale des polymères jusqu'à 10, on dit ici, n'est jamais plus grand du sommet. Alors, il n'y a jamais un Poisson effect. On ne va jamais à atteindre ce sommet. C'est-à-dire que... Mais il y a un Poisson, évidemment. Ici, il y a un sommet dans le système de polymérisation. Et c'est-à-dire, tout court, que le Poisson, dans ces cas, est complètement dû à la hétérogénéité. Alors, il n'y a pas un Poisson dans chaque classe, mais seulement il provient de la diversité des polymères parmi les classes. Et c'est ça que, à la fin, détermine cet comportement différent du système de polymérisation vis-à-vis des systèmes d'échafaudage simple, multivalent. Bien. peut voir ça dans une manière différente. Ici, je vous montre le potentiel catalytique. Si je somme, pas sur toutes les polymères dans le système, mais seulement jusqu'au niveau, jusqu'à la longueur, une certaine longueur, ça c'est longueur 1, 2, 3, etc. etc. Et vous voyez que si je somme jusqu'à beaucoup de longueurs, il n'y a jamais un proson, et c'est seulement si j'inclus de très grandes longueurs que le proson fait se voir. On peut penser que c'est un système pas très réaliste, que c'est certainement vrai, mais en particulier parce que chaque A peut interagir avec chaque B, et on pourrait dire que ce n'est pas très réaliste parce que ces polymères peuvent être une forme beaucoup plus rigide. Et c'est intéressant qu'on peut, on peut limiter ce modèle à une situation où un A peut interagir seulement avec des B qui ne sont plus séparés de A qu'un certain nombre de liaisons sur le polymère, une certaine distance. Alors on prend un A et on pense à une balle autour de cet A, et les B qui sont dans cette balle peuvent interagir avec cet A, et on peut résoudre ce système aussi complètement analytiquement. Et c'est la même, expression analytique, à l'exception d'une correction ici qui dépend du H. Si le H, que c'est la distance de cette balle, si le radius de cette balle ne dépend pas de la longueur du polymère, ça c'est la situation plus restrictive, je crois. Nous savons que cette sigma S est toujours moins de 1, à l'exception quand sigma devient infini. Et alors, il nous faut beaucoup de puissance, il ne faut pas un H très grand pour faire ce terme de correction petit et négligent. Et alors, en retour, on a le comportement essentiellement le même que sans cette limitation. OK, justement, brièvement, pour vous donner une idée de cas discret. Dans les cas discrets, je disais que nous avons un nombre discret de particules A, B, de chacun type, A, B, S. Et alors, le potentiel catalytique devient ce qu'on peut calculer, le moyen. Et le moyen est défini par, imaginez que vous avez si vous avez un fixe nombre de A, B, S, vous pouvez construire le nombre des états que le système peut avoir. Pour chaque état, imaginez, vous comptez le nombre de polymères de longueur L qui sont occupés par I, A et G, B. Et alors, ça, c'est vos objets, longueur L, IA, GB. Et pour chaque état, vous avez un certain nombre de cette configuration qui contribue à un potentiel catalytique, I par G. Et vous multipliez ce nombre par la probabilité de ces états. Et après, vous sommez sur tous les états. Et vous faites ça, vous faites aussi évidemment la somme pour toutes les longueurs, tous les I, toutes les configurations d'occupance. On dit occupance ? Non. Et ça, c'est le moyen. Le problème est de calculer le moyen de chaque configuration. C'est-à-dire, je répète, c'est-à-dire de compter chaque configuration que vous intéressez dans chaque état, multiplié par la probabilité de cet état. Et on peut faire ça analytiquement, utilisant un petit théorème que nous avons dans ce papier. Où on peut calculer cette moyen si on peut calculer les fonctions de partition. Et ça, et les fonctions de partition, dans ces cas de polymères, ce sont très faciles à calculer parce que c'est combinatoire élémentaire. Mais grâce à ce petit théorème, on peut faire ça très facilement si on connaît les partitions des fonctions. Si je traduis en mots ce théorème, que c'est joli, je crois. Il dit que si vous avez une configuration I, une espèce I qui est structurée, comme dans les cas des polymères et leur configuration d'occupation, si vous avez une espèce I, en général, ce n'est pas seulement pour ce système ici, c'est complètement général, si vous avez une espèce I, alors le nombre moyen de cette espèce, et si vous avez donné un certain nombre de A, de S, de B et les affinités, c'est un facteur ici, c'est le nombre c'est le nombre de combinaisons que vous avez pour réaliser une copie de cette espèce I. Nous parlons des espèces qui ont une structure, évidemment. Alors, ça, c'est le nombre de façons qu'on a pour construire, pour réaliser une copie de cette espèce. T, ça, c'est simplement le vecteur de ressources. Epsilon, c'est l'énergie de cette configuration, c'est l'exponentielle de l'énergie de cette configuration. Et ça, c'est une ratio entre la fonction de partition dans laquelle vous avez un système, vous considérez un système avec cette ressource, moins le nombre de ressources qui sont nécessaires pour construire une instance de l'espèce I, divisé par la fonction de partition sans cette restriction. Alors, si vous pouvez calculer les fonctions de partition, c'est très facile. Et dans ce cas, en fait, c'est très facile. Alors, j'avais dit que dans le cas où vous avez des nombres discrets, vous avez un maximum, une longueur maximale de polymère, parce que vous n'avez pas le bon nombre maximal, c'est le nombre de S qu'il y a dans le système. Vous pouvez, utilisant un peu les idées de Flory de 1930, quelque chose, on peut calculer la probabilité, donner le nombre de S dans le système et l'affinité, on peut calculer la probabilité que deux protomères sont liés entre eux. Et ça, devient une fonction de sigma et TS, le paramètre du système. Et ici, je vous fais voir la probabilité que vous rencontrez la longueur maximale, que toutes votre protomères sont agrégées dans un seul objet, avec évidemment le potentiel catalytique maximal, comme fonction de la probabilité. Alors, c'est pour les physiciens, c'est très proche à l'idée de la percolation sur un lattice, sur un réseau, mais un réseau linéaire fini dans ces cas. C'est un complète équivalence si le réseau, si le lattice est infini. Mais dans les cas finis, dans la physique de la percolation, c'est un peu différent, mais c'est la même idée. Alors, ce que je veux dire ici est que ça, c'est une courbe qui est associée avec un nombre de TS qui est moins de cette courbe ici, moins de cette courbe ici. Alors ici, le nombre de TS de protomères est en croissance, augmente. Alors, c'est-à-dire que si vous avez le message et si vous avez peu de protomères, la probabilité d'encontrer le maximal, le polymère de longueur maximale est très haute. Enfin, ici, vous pouvez... Évidemment, je vous dis que dans les cadres de concentration, la configuration la plus fréquente est toujours le monomère. Mais quand vous avez dans les cadres discrets, à un certain moment, si vous augmentez le sigma, l'affinité, c'est le maximaire, c'est le polymère plus long qui croît, qui grandit, qui augmente en concentration. Et il devient l'espèce la plus concentrée, et la plus fréquente, que le monomère. Peut-être brièvement, ça c'est le comportement du système de polymérisation dans les cas discrets. C'est comparé avec le cas discret des échafaudages multivalents. C'est la même. Ce que je veux dire ici simplement, que c'est plus ou moins la même chose, quantitativement et qualitativement. Mais peut-être l'information importante ici est que des comportements qui sont il y a des comportements dans le système discret qui peuvent être atteints très facilement dans le système discret, mais sont très difficiles. Ils demandent des valeurs de paramètres très extrêmes dans les cas continus de concentration. Parce que dans les cas de concentration, si vous vous souvenez, si vous vous rappelez, quand le nombre de sites ou le nombre de protomères est petit, le système de polymérisation, parce que le monomère est la configuration plus fréquente, le système de polymérisation se comporte presque comme un échafaudage monovalent. Et c'est seulement un certain nombre de sites que la polymérisation vraiment commence. Et alors, on voit cette déviance du système multivalent. Mais cette departure, différence, peut être se réalise à un nombre de sites très petits, un nombre de protomères très petits dans le système discret. Bien, nettement concluder brièvement que je crois que le message important est que c'est un système où la rencontre entre les A et les B peut être contrôlée très facilement à travers les paramètres du nombre de protomères et de l'affinité, et que parce qu'il a ce comportement différent de système d'échafaudage ordinaire qui ne polymérise pas, je crois qu'il peut jouer un rôle assez important dans la régulation des voies de signalisation dans la cellule. Je crois qu'on trouvera beaucoup plus des instances de ce système polymérique dans des différentes raisons dans la cellule. Brièvement, parlons un peu de d'apprentissage. La raison, je retourne au système de polymérisation dans un moment, parce que l'intérêt que j'ai pour cette polymérisation a que voir avec l'apprentissage. Alors, comme vous savez, je ne suis pas un expert du tout dans la théorie de l'apprentissage, mais comme vous savez, il y a au moins une classification de type d'apprentissage, l'apprentissage supervisé, qui c'est classiquement la classification. Vous avez un ensemble de formations avec lequel vous entraînez votre réseau, le système. Vous avez un système d'apprentissage non supervisé, que c'est la forme classique, la clusterisation, c'est-à-dire, dans ces cas, vous n'êtes pas intéressé dans ce système de classification, mais une tâche de classification, mais vous êtes intéressé à découvrir des motifs dans vos données. Alors, clustering, c'est un exemple classique. Et il y a l'approche à l'apprentissage que s'appelle reinforcement learning. C'était, comment on dit, par renforcement, apprentissage par renforcement, qui typiquement c'est le plus, je crois, un des plus importants pour les systèmes biologiques, parce que typiquement, si on rencontre ce type d'apprentissage quand un système veut achever un certain objectif, un certain but, par exemple trouver de la nourriture, et pour succéder, pour réaliser ce but, il faut traverser différentes séquences des actions, mais vous recevez le reward, la récompense seulement à la fin. Et alors le problème est et comme est-ce qu'on peut distribuer cette récompense sur les différentes actions qui étaient nécessaires pour achever cette but. Et il y a des différentes techniques pour faire ça. Mais seulement, c'est un problème complètement différent que l'apprentissage supervisé ou non supervisé. Je vous rappelle brièvement, et je crois que c'est le... En général, la question de l'apprentissage dans la biologie est que nous avons beaucoup de théories d'apprentissage, très efficaces évidemment, dans la statistique. Mais il serait intéressant d'avoir... La statistique n'est pas mécanistique. Il serait très intéressant de comprendre comment on pourrait réaliser des différentes approches statistiques qui sont connues dans la statistique à travers des interactions moléculaires, par exemple. Et alors, ça, c'est une approche mécanistique. On peut dire, ah oui, je comprends ce système biologique d'un point de vue statistique. Il semble de faire une classification ou il semble de faire de réaliser un apprentissage d'un certain type que nous connaissons dans la statistique. Mais la question est, comment est-ce qu'il fait ça? Quelle est la mécanique, le mécanisme? Et je crois que ça, il y a beaucoup, au moins au niveau moléculaire, il y a beaucoup de connaissances, évidemment, au niveau plus phénologique. On sait beaucoup comme les fourmis ou des autres insectes, par exemple, apprennent avec le mais un niveau plus comportemental, il serait intéressant de pousser cette question plus au niveau moléculaire pour comprendre comment des cellules pourraient apprendre, par exemple, s'ils peuvent apprendre. Alors, c'est ça un peu que je crois où les efforts dans le futur pourront être concentrés. Et je vous rappelle seulement la phénoménologie de cet apprentissage. C'est pris diapositive de notre intervenant le vendredi passé, Yarden Katz. Ici, vous avez par exemple une levure qui doit changer ses voies de métabolisme pour utiliser une nourriture, par exemple le glucose, et il doit changer cette voie de métabolisme pour utiliser la galactose, par exemple. Et les deux voies peuvent être incompatibles, alors c'est important de être capable de prédire un peu le changement de l'environnement. Et si l'environnement est modélisé par un processus markovien, où il y a des états qui cachés, qui, par exemple, tournent l'environnement dans un état caché, le comportement observable d'environnement peut être périodique, par exemple, et dans un autre état peut être constant. Et alors, le signal qu'un apprentissage s'est passé, s'est produit, et que après que le système a été exposé à ce changement des environnements, l'adaptation, quand on change l'état de l'environnement, de périodique par exemple à constant ici, l'adaptation est beaucoup plus vite après avoir été exposé déjà dans le passé à cet changement que s'il n'y avait pas d'exposition comme ici. Et la question est comment on pourrait faire ça. Yard nous a raconté un peu une architecture possible, mais Je crois qu'il y a beaucoup de travail encore à faire à ça, parce que je crois que ça, c'est une bonne... C'est un bon élément de cette architecture, c'est-à-dire dans ce cas ici, le problème est de... Dans tous ces systèmes d'apprentissage, dans les tâches d'apprentissage, il faut à un certain moment compter. Alors il faut un système moléculaire, un circuit moléculaire pour compter. Et dans ces cas, il faut compter des transitions, par exemple, d'un environnement qui est riche en glucose dans un environnement qui est riche en galactose. Alors, il faut compter ces transitions d'un état A à un état B et vice-versa. Et alors, ça, c'est une façon pour compter, c'est-à-dire vous avez un sensor qui répond à glucose, par exemple, qui est A. Et alors, si vous avez beaucoup de A, vous avez activé ce sensor. Mais le moment que B arrive, que l'environnement change de glucose à galactose, alors vous avez tout d'un coup un B ici, une certaine concentration de B, et il y a un recorder B qui maintenant peut, avec l'aide de B, peut être ou le sensor ici, le sensor A a produit, par exemple. Par modulation de l'expression génétique, il a produit un B recorder qui, quand B devient présent, est activé et produit un molécule qui est laquelle concentration vous dit combien de fois vous avez rencontré un changement d'état A à état B, parce que la première fois que ce changement se rencontre, A to B, cette molécule de mémoire, achève une certaine concentration. Peut-être il se dégrade un peu, mais si l'environnement change de nouveau de A à B, alors vous augmentez encore une fois, avec un bolus, vous augmentez encore une fois la concentration de cette molécule. Alors, vous commencez à croître d'une façon quantique, si vous voulez. Et la même chose se passe avec B to A. Et alors ça, ce sont des compteurs directionnels qui sont plausibles, mais le problème est après de transformer ce compte dans des probabilités. Et pour ça, il faut normaliser, et Yarden a soupçonné tout un système un peu compliqué, je crois, pour normaliser ces comptes. Mais je crois qu'ici, il nous a fait voir un peu le comportement dans son intervention le vendredi passé. Moi, je crois que cette construction est très fragile, c'est pas très robuste, et je crois qu'il faut être beaucoup plus robuste. Alors, je ne suis pas sûr encore si ça... Il y a beaucoup de travail encore à faire, je crois, pour arriver à une idée comme transformer ce compte dans des probabilités et de intégrer ce système dans un réseau qui réalise cet apprentissage, qui apprend la statistique, si vous voulez, des changements de l'environnement et prévoit donc il a un modèle statistique intérieur réalisé par cet réseau, et alors il prévoit que le prochain changement, et alors peut anticiper le changement génétique qui sont nécessaires pour utiliser la prochaine ressource de nourriture. Mais je crois qu'il y a beaucoup de travail ici encore à faire. Ça, c'est un autre chapitre, si vous voulez. C'est l'idée de si, en général, des systèmes de réseaux, des réseaux chimiques peuvent être construits pour apprendre, pour l'apprentissage, alors il faut au moins que ces systèmes peuvent peuvent représenter des distributions de probabilité. Si vous faites de l'inférence, etc., c'est tout des opérations sur les distributions de probabilité. Et alors, ça, c'est un papier qui vient de sortir par Eric Winfrey et son collaborateur. Si vous avez un réseau de chimique qui est dans un état stationnaire, alors vous avez des... pour un, si le réseau a conforme avec de certaines conditions qui s'appellent detailed balance ou des restrictions moins sévères comme complex balance, on peut, il y a des théorèmes qui sont bien connus que la concentration stationnaire des espèces chimiques est toujours un produit de distribution de Poisson qui a cette forme ici où G est une énergie de formation de l'espèce I, et SI c'est la concentration en équilibre, en steady state, en équilibre stationnaire de S. Alors ils ont toujours cette forme ici, il y a des conditions, mais la condition plus importante ce sont des différentes idées de detailed balance. Quand le système a achevé un steady state, vous avez des fluctuations, clairement, mais si vous prenez, parce que c'est Poisson, les fluctuations sont la racine du moyen, parce que dans une distribution de Poisson, vous avez le moyen égale la variance. Et vous avez alors un moyen pour X, un moyen pour Y, par exemple, et vous pouvez considérer cette moyenne comme si elle est normalisée comme une probabilité. Alors la question est quelles distributions de probabilités peuvent être représentées par un système chimique. Et c'est assez surprenant que c'est énormément général, parce que ça, c'est une distribution de probabilité qui peut être facilement représentée, où vous avez un système où le X et le Y ont une particulière valeur, ici, ça, je ne sais pas, 10 et 5. Quand X est 10 et Y est 5, alors il y a une certaine probabilité qui est représentée par cette vecteur, qui est le degré de grise. C'est pas seulement blanc ou noir, c'est tous les degrés de gris. Le truc pour réaliser ça est très simple. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait, ça c'est la prescription. On utilise deux trucs, je crois. Un est, si j'ai compris bien, un truc est que les espèces X et Y sont seulement... il y a beaucoup plus d'espèces dans le système, mais on fait une projection sur Y et X. Et le deuxième truc est qu'il y a des classes de... Oui, il y a, si vous avez des réactions chimiques, il y a des classes de restrictions sur quelle concentration, quel état vous pouvez achever, parce qu'évidemment, il y a la stoichiométrie, etc. Mais peut-être ça, c'est un exemple ici. Alors, dans ce cas ici, on construit un système chimique dans lequel il y a, pour chaque pixel, il y a une espèce chimique. Mais ce n'est pas l'espèce chimique, c'est une espèce chimique hidden, cachée. C'est une espèce chimique cachée, c'est-à-dire que ce n'est pas une espèce chimique qu'on observe, c'est Y et X qu'on observe. Alors pour chaque pixel, il y a une espèce chimique, il y a beaucoup d'espèces chimiques. Et l'espèce chimique devient un. Initialiser le système avec P11 égale à 1 et X et Y, le nombre de particules de X et de Y à 1, et suivez cette réaction ici. Alors, P11 se détruit pour devenir 2-1, une particule de 2-1 de l'espèce P21, plus un X. Mais cette particule, on peut réitérer cette réaction produit un autre X et devient la particule P3.1, etc., etc. Alors, vous voyez que dans tout le système, beaucoup d'espèces cachées, toujours il y a seulement une particule. Si vous assignez les énergies à chaque espèce dans cette façon ici, où cette P, I, G sont exactement les probabilités que vous voulez avoir, alors en équilibre, dans l'équilibre stationnaire, je comprends ça d'être comme un vieux tube de cathode où cette particule, cette seule particule qu'il y a dans le système, réalise des différentes espèces, mais avec une certaine probabilité. Et alors, vous avez un système que si vous observez la particule, si vous observez un particulier pixel, ça fait 0,1, 0,1 tout le temps. Et ça pour chaque pixel, mais chaque temps, il y a seulement un pixel qui est actif. Mais si vous prenez le moyen et vous projectez sur X et Y, vous avez cette distribution ici. Même si ça ne semble pas un produit de poisson, de distribution de poisson, mais évidemment, c'est un produit de distribution de poisson dans le système entier, parce qu'il y a cette espèce cachée. Non, ça, c'est très, très, c'est très vulnérable, c'est pas très robuste. Et le défi, ça, c'est seulement un exemple pour s'échauffer un peu dans ce papier. Un papier très intéressant et très difficile. Je n'ai pas compris complètement ce qu'ils ont fait. Mais ils ont réussi à démontrer qu'on peut faire ça, le même, des constructions, pas comme ça, peut-être un peu plus sophistiquées, de façon que la distribution est robuste des perturbations. Alors, on pourrait penser que si, par exemple, dans ce système comme ça, vous éteignez toutes les réactions qui produisent X, alors vous fermez le nombre de X dans le système. Et maintenant, vous avez une probabilité conditionnée sur un certain nombre de X. Si l'inférence est à la fin de la fin, le conditionnement de distribution de probabilité, alors ça ouvre peut-être l'idée d'un système chimique qui peut réaliser des stratégies d'inférence. C'est très joli d'un point de vue, mais c'est une classique approche mathématique, c'est-à-dire dans ce cas ici, c'est un peu un thème de cette leçon, un motif, c'est que si votre notion de système chimique est une notion mathématique, c'est-à-dire où les objets n'ont pas de structure interne, où ils sont des noms propres comme PIG, alors vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Dans un certain sens, c'est très similaire, c'est très, très proche à ce que Gérard Berry, à l'époque, et les informaticiens le métayer Banâtre ont fait quand ils ont commencé à penser à un système d'exécution, si vous voulez, de la computation avec des règles chimiques de cette type ici. Ça fonctionne si votre objet n'a pas de structure interne. Alors, c'est vraiment comme des petites instructions dans un ordinateur. Mais c'est toujours, quand vous avez ça, toujours ce que vous faites, et vous utilisez la chimie comme un moyen pour réaliser des systèmes de computation classiques, traditionnels. La question que j'ai vraiment est si vous passez à des systèmes où les particules ont une structure interne, et vous avez une contrainte qui vient de règles de réécriture, parce que parce qu'il y a des contraintes de transformation, comme dans la chimie. Alors la question devient plus difficile à réaliser, cette système ici. Et il devient une question s'il y a un langage, quel est le langage de programmation naturelle intrinsèque de la chimie, si compris. Je ne crois pas qu'il fait beaucoup de sens d'essayer de programmer d'une façon Turing ou ça un système de réaction de chimique organique. La question est plutôt, je crois, si les réactions chimiques ou les lois de réécriture chimique offrent des opérations de transformation qui peuvent être interprétées d'un point de vue computationnel plus naturel. Mais d'autre côté, si on passe à la biologie où les protéines interagissent entre eux pour changer leur état, la situation devient beaucoup plus combinatoire et moins limitée en comparaison avec la chimie, parce que les lois de réécriture des états des protéines ne sont pas des lois fixées par la physique, ce sont des lois qui s'évoluent. Alors, c'est possible qu'on peut retourner, que ce type de compréhension devient utile tout d'un coup pour les systèmes biologiques, parce qu'ils sont moins de contraintes de réécriture que dans la chimie organique. Bien. Ça, c'est brièvement que on peut, en retournant à la polymérisation, on peut imaginez un système très, très simple pour clustering, pour la clusterisation à travers la polymérisation. Parce que si vous avez une possibilité d'écrire l'état, de transformer les données, par exemple l'état environnement dans un état d'une protéine, dans un motif de phosphorylation ou d'autres modifications d'une protéine. Et si les modifications des protéines changent leur affinité entre eux, et cette affinité peut devenir une fonction de la distance entre les états, alors vous voyez immédiatement un système très simple où des protéines qui ont des modifications proches l'un de l'autre ou similes l'un de l'autre ont une grande affinité pour l'un de l'autre, et alors ils polymérisent ou ils font une agrégation. Et c'est un système pour faire du clustering très simple. Mais c'est très simple d'un point de vue conceptionnel, c'est pas très simple de vraiment maintenant réaliser cette translation des données dans un motif de modification des protéines et d'une façon que l'affinité est changée en fonction de la distance. Alors ça c'est mais ça c'est oui ça c'est la de nouveau l'idée de la polymérisation des échafaudages, c'est pour ça que j'ai passé un peu de temps avec ça. Et pour moi, c'est l'opportunité de imaginer que nous avons parlé du potentiel catalytique, mais vraiment ce que nous avons parlé est je ne sais pas comment on dit en français, crosstalk, diaphonie ou non, crosstalk, quand vous avez une voix et une autre voix et les deux font une interface, crosstalk, je dis crosstalk. Intermodulation. Oui, mais ça a un peu un son analogue de signal. Mais je dis crosstalk simplement pour éviter des interprétations. Alors, si vous avez des différentes voies de régulation, si cette voie partage des s'il partage des composants, alors il peut être une interférence, un crosstalk entre les deux voies. Mais beaucoup de fois, cette crosstalk est regardé comme une nuisance, comme quelque chose à éviter, mais je crois que ce n'est pas quelque chose à éviter, c'est exactement l'opposite, parce que c'est exactement ce crosstalk qui peut avoir la fonction d'intégrer les informations qui sont traitées par des différentes voies. Et ça serait très intéressant si on pouvait moduler cette intégration, ce crosstalk. Et une possibilité de faire ça exactement à travers la polymérisation, l'agrégation des protéines, parce que ce que nous avons appelé le potentiel catalytique, c'est rien que la magnitude, la quantité de crosstalk entre A et B. Mais A et B peuvent être des composants qui sont régulés ou sont activés par une voie de signalisation, B par une autre voie de signalisation, et là, en général, pardon, dans le système WNT, mais en général, alors on pourrait envisionner que la polymérisation d'un échafaudage peut agréger, peut offrir une place de rencontre par des différentes composants des voies de signalisation et produire dans une façon régulée, contrôlée, cette interférence, cette crosstalk. C'est pour ça que je crois que nous trouverons, c'est une spéculation évidemment, mais je crois que c'est pour ça que nous trouverons un grand intérêt dans ce système d'agrégation et de polymérisation. Et nous trouverons ce motif beaucoup plus fréquemment que nous pensons. À ce moment-là, je crois que c'est bien faire passer peut-être en revue de 100 000 pieds un peu les thèmes, les thématiques que j'ai essayé de transmettre. Ça, vous avez été mes cobayes, parce que je n'ai jamais donné un type de leçon de cette expérience. Et évidemment, j'ai choisi de ne pas entrer dans les détails de chaque... Ce n'était pas un cours de façon où vous apprenez une technique. Ça aurait une forme complètement différente. Mais je ne crois pas que ça, c'était le but de cette... Ce n'était pas mon désir de faire ça. Mais c'était plutôt d'essayer pour moi-même, et peut-être pour vous, de voyer un peu en ensemble certaines thématiques et voir s'ils connectent un peu. Je ne sais pas si j'ai réussi. Chaque fois, après chaque leçon, j'ai fait mon post-mortem, comme je croyais que où je pourrais faire mieux, un langage à part. Et je crois que dans les itérations, il y aura des itérations futures. Je crois que c'est quelque chose sur lequel on peut construire un cours un peu plus meilleur. Mais c'était un premier pas pour moi. Mais c'est peut-être utile de passer en revue un peu les thématiques. Alors, j'avais commencé tout ce cycle avec le problème du codage du phénotype dans le génotype et l'environnement. Et pourquoi ça, c'est important? C'est important parce que, oui, c'est pas complètement accidentel que nous avons fini un peu avec une vue sur l'apprentissage et nous avons commencé avec l'évolution, qui est un système d'apprentissage aussi, parce qu'il y a clairement une analogie entre une conception simple du darwinisme classique qu'on appelle néo-darwinisme et l'apprentissage bayésien, parce que le prior et la distribution des génotypes à ce moment, la likelihood et la fitness. Et après, vous avez un posterior, qui c'est la nouvelle distribution des génotypes après un cycle de sélection et de mutation. Et alors, c'est un type de Bayesian updating. Et beaucoup de gens ont vu ça. Il y a toute une discussion sur si c'est utile ou non de penser de cette façon. Mais ce n'est pas un accident que nous avons commencé avec l'évolution, qui est un type d'apprentissage, et nous avons terminé avec l'apprentissage au niveau des cellules, parce que si on fait tout le cycle, on peut vraiment penser à l'évolution comme un système pour apprendre comme apprendre. Et je vous rappelle Robin Milner, qui a dans son Turing Lecture, je crois, a dit un jour que quand une science approche une question réflexive et est capable de la résoudre positivement, alors ça change complètement le monde. Et ça, c'est passé avec la computation, parce qu'il y a un moyen pour computer la computation, c'est la Universal Turing Machine. Ça, c'est passé avec le web, parce qu'il y a un moyen de communiquer, une façon de communiquer. Ça, c'est exactement le web. Et la question vraiment pour l'évolution, la question ultime pour moi, c'est est-ce qu'on peut évoluer un système pour évoluer? Mais on peut traduire ça dans les langages d'apprentissage. Et je crois que c'est vraiment passionnant. Bien, le particulier codification de phénotypes dans les génotypes que nous avons exploré, même si nous avons exploré ça dans un cas très très particulier de l'ARN, je crois qu'il il nous a révélé un motif un peu plus général, qui est beaucoup plus général, je crois, du ARN, que c'est cette idée de la neutralité. C'est une idée vieille qui existait déjà avec Kimura et dans la génétique des populations. Mais dans ce cas ici, toujours quand vous ajoutez de la structure, comme dans le cas de l'ARN, vous trouvez une surprise. Et la surprise ici, ce n'est pas la neutralité par soi-même, mais c'est le fait que la neutralité est connectée dans l'espace des génotypes. Et alors, on peut voyager sur un réseau sans perdre le phénotype qu'on a au moment, mais explorant des phénotypes nouveaux qui sont dans la frontière d'un réseau, d'un réseau qui correspond, associé avec un certain phénotype. Alors, c'est cette thématique de l'exploitation vers exploration. Et exploitation et exploration, dans ces cas, ne sont absolument pas de contraire, parce que l'exploitation, c'est la robustesse, c'est le fait que vous avez cet réseau neutral où vous pouvez voyager, alors vous pouvez exploiter votre phénotype, si vous voulez, pour investiguer, pour étudier de nouveaux génotypes. Mais à un certain moment, le contexte du génotype a changé de façon que la prochaine mutation vous donne un nouveau phénotype. Et ça, c'est l'exploration. Mais avec ça, pour que ça puisse fonctionner, il y a un autre paramètre, que c'est le paramètre de la accuracy, de la précision, où ça, tout ça fonctionne vraiment seulement si vous avez une suffisante précision de l'héritage de l'information, et aussi il y avait une précision pour hériter le génotype, et il y a une précision différente pour hériter le phénotype. Et ce qui est beaucoup plus important, évidemment, est de hériter le phénotype, pas le génotype. Et alors, c'est une restriction beaucoup moins sévère. Nous sommes passés après à la modélisation, nous sommes entrés dans la cellule, parce qu'à la fin, comment est-ce qu'on connecte ce point de départ de l'évolution avec ce point d'arrivée ici? On le connecte à travers essayant de modéliser les systèmes moléculaires qui sont responsables pour l'apprentissage, qui s'évoluent. Et alors nous avons approché un peu l'idée de la modélisation mécanistique du traitement de l'information cellulaire. Et là, il y avait le thème qui était le plus important. Je crois que c'est exactement ce que j'avais dit dans le contexte de travail de Eric Winfrey et de son groupe, qu'il serait utile de distinguer vraiment entre... Ce sont deux mondes différents. Le monde où vous avez un réseau chimique qui est basé sur A, B, C, D, sur des noms propres et des réactions arbitraires que vous pouvez définir entre cette espèce, et le monde plus restrict, limité, où vous avez des objets qui ont une structure interne et qui obéissent à une réécriture graphique. La modélisation des systèmes cellulaires d'un point de vue traditionnel, où typiquement on ne soupçonne pas de structure pour les espèces, parce que si vous disiez ah, c'est l'enzyme, c'est le substrat, et ça c'est le complexe entre enzyme et substrat, du point de vue mathématique, le complexe entre enzyme et substrat ne sait pas qu'il y a... L'équation ne sait pas qu'il y a un enzyme, que ce sont deux composants. Pour l'équation, c'est une autre variable. Alors, le fait que vous pensez en termes d'objets structurés, ça ne veut pas dire que votre mathématique tient compte de ça. En fait, il ne tient compte pas du tout dans le cas des équations différentiales ou des master equations, etc., qui sont des équations différentielles pour les probabilités. Il faut que, pour tenir compte dans la mathématique de la structure des objets, il faut vraiment, je crois, utiliser les idées de la théorie de la computation, parce que c'est représenter ces objets et les transformer, et c'est exactement le cœur de l'informatique, alors, comme la réécriture des graphes. Et alors, mais c'est pas un jugement, parce que ça dépend de votre question. Je vous avais fait voir, je crois, qu'il y a dans la modélisation classique où les objets ne sont pas structurés, vous avez toute l'idée des circuits. Les circuits où vous avez des motifs de circuits, et c'est un petit langage qu'on a accumulé, un langage de différentes boucles, de retours, de feed-forward, feedback, de Daniel Goldberger-Cauchland loops, etc., etc., des cascades. Il y a tout un vocabulaire de motifs, de structures qu'on peut utiliser comme dans l'électronique, peut-être pour assembler des réseaux qui ont un comportement que vous désirez. Mais toujours, c'est une idée... C'est une approche qui voit le monde d'un point de vue d'un ingénieur, où un circuit, où tous les éléments d'un circuit ont une certaine importance, où il y a une interprétation pour chaque lien. Mais si vous, d'autre côté, passez à un système qui sont plus structurés, comme nous avons... que nous avons visité. Alors, vous avez tout d'un coup, vous avez cette incroyable combinatoire qui explose, les polymères, le crosstalk, vous avez toutes les... Alors, c'est beaucoup plus un réseau qui est plus statistique, qui est plus dense, et où il n'est plus possible, si vous faisiez le modèle de Wnt avec 1300 règles, c'est plus possible de dire « Ah, cette interaction est là parce qu'il y a une particulière raison, parce que c'est plus possible d'interpréter chaque interaction. » Ça ne veut pas dire que certaines interactions sont plus importantes que d'autres, mais c'est beaucoup plus distribué, le système, c'est beaucoup plus intégré. Et ce qui se passe, c'est un peu plus ressemble, c'est beaucoup plus les réseaux neuronales. Alors, c'est une vision qui est très différente de la vision qui est supportée par cette vocabulaire de la composition des petits circuits. Mais toujours, ce n'est pas un jugement, c'est seulement de dire qu'il y a de différentes façons de voir et qu'il souligne des aspects très différents. Et je crois que c'est important d'explorer au moins cet aspect combinatoire et structuré. En fait, je crois qu'il faut refaire un peu toute la théorie, ou réécrire un peu la théorie des réseaux chimiques par les règles. Nous avons visité aussi une conséquence de cette du passage de circuits et de monde où les objets ne sont pas structurés, un monde où les objets sont structurés et conformes à des règles de réécriture. Une conséquence de ça est la causalité. C'est une façon différente de voir la causalité. Je ne veux pas dire une façon différente de voir la causalité, une façon plus meaningful, plus significant, avec plus de sens. Parce que, je vous rappelle, si vous avez des objets qui ne sont pas structurés, alors la causalité est vue à travers les systèmes de réécriture, et une causalité où vous avez les transporteurs de causalité sont des motifs, sont des schémas, des schémas, et pas toute la molécule, ce sont des parties de molécules. Et nous avons rencontré deux types de causalité, ce que j'aime appeler causalité dure et causalité douce. La causalité dure est une causalité qui n'est pas vulnérable au changement des taux de réaction ou de l'abondance des espèces, parce que s'il faut que A phosphorylise B avant que B puisse se lier à C, ça c'est une séquence des événements qui ne dépend pas des taux de réaction. Le taux de production de C, oui, ça dépend des taux de réaction et des abondances, mais la séquence, ce qui doit se passer avant et que se passe après, ça, cette séquence causale n'est pas sujet à cette négociation. D'autre côté, la causalité douce est tous sujet à cette condition des taux et des abondances. Et ce serait intéressant de voir aussi d'un point de vue évolutionnaire comme une situation douce se transforme peut-être en une situation dure où vous avez vraiment des conditions mécanistiques qui imposent une causalité. Parce que tenez compte que s'il y a complète concurrence maximale, c'est-à-dire si vous avez un système de règles, par exemple, prenez un système d'assemblage où toutes les liaisons sont indépendantes l'une de l'autre, alors vous n'avez pas de causalité pratiquement au niveau des règles. Ce n'est pas de causalité dure. Mais comme par exemple dans l'échafaudage, le monovalent, où A se lie à B, A se lie à S, et B se lie à S indépendamment. Il n'y a pas d'interférence causale, mais il y a une énorme interférence dynamique, parce que la main droite ne sait pas ce que la main gauche fait. Dans le cas de l'échafaudage, exactement, la conséquence est cette courbe avec un maximum où vous facilitez la rencontre entre A et B et après vous isolez A et B parce qu'il n'y a pas de communication entre l'échafaudage et son état de liaison. Alors vous pouvez imaginer qu'il y a beaucoup de... C'est almost glassy, les physiciens diraient, parce qu'il y a beaucoup d'interférences. Vous essayez d'assembler une grande machine de façon indépendante et vous finissez avec beaucoup de parts des assemblages partiels, mais les assemblages partiels ne peuvent pas compléter l'assemblage. Mais la façon d'éviter ça est d'introduire causalité dure, où il y a certaines séquences des événements qui garantissent qu'on évite exactement cette interférence. Alors, dans les cas d'échafaudage, il peut dire, vous pouvez imaginer que la liaison de A à S est une condition pour B à se lier à S. C'est-à-dire A phosphorylise S quand il est lié à S, et c'est cette phosphorylisation de cet état phosphorylé de S que B peut reconnaître avant de se lier. Alors, vous avez une séquence des événements maintenant qui évite cette comportement d'interférence. Nous avons rencontré les cas, les contrefactuels, comme une approche vers la causalité douce. Une approche intéressante, je crois, mais très, très, très théorique. Je ne sais pas clair combien de... C'est, ouais. Et ça nous a porté à la fin. Je vous remercie d'avoir été patient avec moi et mon français. Il faut que je veux, pas le cas que je fous, mais je veux remercier Frédéric Doyen qui a mis ma vie en pratique ici et qui m'a organisé, et Rénald Bellet qui est la liaison avec l'INRIA et le staff du collège, évidemment, qui est très gentil. Merci beaucoup.